Si vous voulez vous tourner dans vos Bibles, au livre d'Agée, dans l'Ancien Testament, on va regarder tout le livre ce matin. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies, pour ta fidélité envers nous, pour ta bonté et ta grâce. Merci Seigneur pour ta patience avec nous. Seigneur, merci pour ton Fils, pour son sacrifice, pour sa résurrection et pour la vie que nous avons en toi, pour la vie, pour la relation que nous avons avec toi, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes, Seigneur, avec toi. Bénis-nous ce matin par ta parole, parle à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour la Bible, Seigneur, et toutes les choses qu'elle contient, tous les messages qu'elle contient de ta part pour nous. Aide-nous à ouvrir nos oreilles, Seigneur, et nos cœurs à ce que tu as à nous dire à chacun, Seigneur. Merci. Amen. Alors, Agée, encore un des petits prophètes, des prophètes mineurs, comme on dit. Ce matin, je vais faire quelques petits rappels pour un petit peu les situer. Et pour ça, je me suis dit que j'allais mettre quelques éléments un petit peu visuels pour le début de l'enseignement. Et donc ici, on a une photo du temple tel qu'il est reconstruit. C'est une estimation ou une idée de ce à quoi ressemblait le temple sous Hérode ou à l'époque où Jésus était là. Donc ça, c'est bien plus tard. Mais le temple, au moment où on arrive dans le livre de Agée, n'était que ruine quasiment. Il n'y avait que les fondations l'autel pour les sacrifices, pour offrir les sacrifices, excusez-moi. Mais Agée, son message en quelque sorte et son rôle, ça va être de dire aux Israélites qui viennent de retourner dans le pays de reconstruire le temple. C'est en gros, de manière très succincte, le message de ce livre. Tout son message, il est constitué en quatre parties qui sont des paroles que l'Éternel lui a données pour transmettre aux Israélites qui étaient revenus en terre promise. Et ces quatre messages, il les reçoit au cours d'une même année calendaire, en 520 avant Jésus-Christ. Et donc ça nous permet un petit peu de le situer. Mais moi, je voulais vous faire aussi un petit rappel de la chronologie du peuple d'Israël et de d'où on arrive ici. Parce qu'on marque une transition, on est toujours dans les prophètes mineurs. On peut se dire, ah oui, c'est un autre prophète mineur, ok, je connais les autres, c'est bon, on continue. Ça va encore être du jugement, etc., etc. Et en fait, on est dans une période différente parce que le jugement qui était annoncé par les prophètes que nous avons regardés précédemment est arrivé. Israël a été conquis, premièrement le royaume du Nord par la Syrie, le royaume du Sud ensuite par Babylone. Et ici, on arrive après ce moment-là. Et donc, le message est très différent. Dieu est le même, son plan pour l'humanité reste le même, mais vis-à-vis du peuple d'Israël, c'est un peuple très différent et dans une configuration totalement différente qui arrive. Et donc on peut regarder juste pour se rappeler un petit peu, pour se donner, je vous ai fait 33 transparents pour regarder si on a le suivant. On a en quelque sorte le début de l'histoire, on a la période d'Adam à Moïse, avec la Genèse, la sortie d'Égypte et puis les 40 ans dans le désert. Et alors les dates, c'est des dates grosso modo pour faciliter la chose. On a autour de 1400 avant Jésus-Christ, on a l'entrée en terre promise et ensuite on a une période avec Josué qui mène l'entrée en terre promise et la conquête, du territoire, et ensuite on a la période qu'on appelle des juges, où ce sont des juges qui s'occupent de diriger le peuple par période. Et ensuite, autour de 1000 avant Jésus-Christ, on arrive à une deuxième période en Terre promise avec le royaume, avec les différents rois, donc Saül, David, c'est le suivant, donc Saül, David et Salomon qui vont régner sur Israël. Et c'est une période de grande prospérité. C'est une période aussi où le temple est construit, le premier temple, de manière très extravagante, avec toute la richesse qu'avait Salomon, toute la richesse aussi que David avait accumulée pour ça. Et vers 930 avant Jésus-Christ, donc après Salomon, il y a une division du royaume. Et on se retrouve avec un royaume au nord qui est le royaume d'Israël et le royaume au sud qui est Juda. Et Israël va être conquis par les Assyriens, on l'a vu précédemment, en 722, et ils vont être emmenés captifs et il restera peu de choses. Juda va survivre à cette attaque des Assyriens grâce à une intervention miraculeuse de Dieu, mais ils vont continuer dans leur mauvaise voie, et finalement, en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens vont détruire Jérusalem. Et il y a des vagues successives, ils vont emmener la plupart des Israélites à Babylone et commence ce qu'on appelle la période de l'exil. Et ensuite, donc sur le transparent suivant, donc il y a la période de l'exil, et en 500, alors je crois que c'est en 538 avant Jésus-Christ, Babylone est conquis par les Perses. Donc il y a un changement, un gros changement géopolitique, et le nouveau roi de Perse, où l'empereur autorise aux Israélites de retourner dans le pays et de reconstruire leur temple. C'est l'histoire qu'on voit dans le livre d'Esdras. Si vous voulez lire ça, on va en parler pendant qu'on regarde Agé. Et donc il y a ce retour en terre promise après l'exil. Et donc les livres qui concernent cette période-là, c'est Esdras, Néhémie, et en partie Esther, et les prophètes, donc Agé, Zacharie et Malachie. Et donc ça, c'est là où on se trouve. Et donc on va regarder, alors après, il y a aux alentours de 400, on a une période de silence jusqu'à l'arrivée de Jésus et le Nouveau Testament. Mais donc c'est dans ce contexte de retour en terre promise qu'on se trouve et que le message d'Agé vient au peuple. Alors c'est bon pour les... Tu peux éteindre si tu veux. C'était tout ce que j'avais en visuel. Donc le pays est détruit. Le peuple revient dans un pays complètement décimé. Nous, on se dit, de nos jours, on peut penser peut-être à la Seconde Guerre mondiale, les Allemands viennent, ils prennent Paris, et Paris reste à peu près Paris. Bon, ils sont dominés, mais la ville reste là. À l'époque, quand un peuple comme Babylone venait et détruisait une ville, ils avaient une autre manière de faire. Ils étaient beaucoup plus systématiques et ils avaient une optique qui était vraiment d'éradication ou d'élimination complète. Ils étaient prêts à aller à des points incroyables pour que les civilisations ne puissent pas revenir. Ils détruisaient les temples, tout ce qu'ils pouvaient avoir de religieux le plus efficacement possible. Ils enlevaient les statues, ils détruisaient toutes les images. Ils détruisaient toutes les murailles, ils brûlaient tout ce qu'ils pouvaient, ils démontaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils étaient prêts même à amener du sel et à le mettre dans les champs agricoles pour empêcher qu'on puisse revenir et planter des plantes et avoir des terres fertiles. Donc le pays est détruit. Et là, le peuple qui revient, après l'exil, qui est une petite partie du peuple. Il y a une grande partie des Israélites qui restent à Babylone, qui décident de ne pas revenir. Mais le petit groupe, on pense que c'est environ 50 000, qui revient en terre promise, ils sont face à une tâche immense. Ils sont face à quelque chose d'incroyablement difficile. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël avant l'exil, on voit combien de temps ça leur a pris pour construire tout ce qu'il y avait et le temps qu'il leur a fallu pour s'établir en quelque sorte. Et là, on s'imagine, ils sont que 50 000. Ils étaient plus quand ils sont rentrés dans la terre promise sous Josué en 1400. Et là, ils se retrouvent, ils sont un tout petit nombre. Ils reviennent aussi dans un territoire qui a été laissé pendant plus ou moins vide, pendant 50 à 70 ans, suivant comment on regarde. Et il y a d'autres gens qui sont installés et d'autres peuplades qui ont pris la place. Et ils n'ont pas forcément envie de voir les Israélites revenir. Donc il y a une difficulté avec ça aussi. Et tout ça fait ensemble que ça va prendre beaucoup de temps pour que le peuple se reconstruise. Et alors, Agé motive le peuple et va les exhorter. Ils sont revenus en 536 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à reconstruire le temple. Pendant 2 ans, ça a été bien. Ils sont partis sur de bonnes bases. Et petit à petit, avec les difficultés, ils ont un peu laissé tomber. Et Agé arrive environ 14 ans après pour les remotiver à se remettre au travail pour reconstruire le temple. Dans le contexte autour, on peut regarder, si vous lisez, alors ce qui se passe avec Agé, c'est décrit historiquement dans Esdras. Et dans Néhémie, on voit, c'est en 440, donc presque 100 ans plus tard, et on s'aperçoit que Jérusalem, que la muraille de Jérusalem était toujours en ruine et qu'ils n'avaient rien fait à ce niveau-là. Et donc on voit qu'il leur faut peut-être 150 ans rien que pour reconstruire Jérusalem et avoir une ville à peu près cohérente. Donc c'était quelque chose de très difficile. Et ce que je vous disais aussi, c'est intéressant de se mettre dans la tête d'Israël. Ils étaient remplis d'un orgueil, ils étaient le peuple choisi, ils avaient cette histoire glorieuse avec Dieu qui leur avait donné la terre promise, qui avait fait des choses incroyables, qui avait fait des miracles tout au long de leur histoire. Et l'exil et la destruction qui arrive par les Assyriens et par Babylone, ça avait dû les changer d'une manière assez incroyable. Je pense que les 50 000 qui sont revenus, c'était des Israélites humbles et humiliés en quelque sorte par rapport à ceux qui ont été conquis avant. Et pour eux, on peut se mettre à leur place, se dire mais ça devait être quelque chose de se dire on a cette histoire, mais qu'est-ce qui vient maintenant? C'est un peu comme si Dieu les avait peut-être un peu rejetés. Et c'est quoi notre futur maintenant? C'est quoi notre rôle? On avait une importance au niveau géopolitique. Maintenant, on est 50 000 là, des moins que rien. Un peu, on est complètement écrasé. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le message d'Agé. On peut lire ensemble. Je vous disais que c'est en quatre messages de la part de Dieu. Et donc on va regarder maintenant le premier chapitre qui nous donne le premier message. Donc Agé 1, verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Donc on a les dates précises par rapport au règne de Darius, qui était l'empereur perse, et on nous présente les deux personnages qui sont les dirigeants du peuple d'Israël à ce moment-là, à savoir Zorobabel, qui est le gouverneur de Juda. Il a été nommé par le roi de Perse pour revenir avec le peuple et reconstruire le temple. Ça, c'est mentionné et expliqué dans Esdras. Et Zorobabel était descendant de Jéconias, qui était le dernier roi de Juda légitime avant l'exil à Babylone. Et on reviendra sur ce personnage à cause de la fin, dans la fin du chapitre 2. C'est quelqu'un qui a une importance sur laquelle on va regarder, sur laquelle on va s'attarder. Et ensuite, il y a un certain Josué qui est le grand prêtre à ce moment-là. Et Agé les interpelle donc et il leur dit « Vous ne reconstruisez pas la maison de l'Éternel parce que le peuple dit que ce n'est pas le moment de le faire. » Et comme je vous disais, c'était quelque chose de difficile. Quand on voit peut-être l'image, par exemple, que je vous ai mise et la grandeur d'un temple comme ça, quand on voit le temps, l'effort et l'énergie que ça avait pris pour construire le temple sous Salomon, on peut se dire qu'ils étaient découragés, ils se disaient « bon, ben, c'est pas le moment ». Comme je vous disais, ils étaient partis sur de bonnes bases, mais ils se sont un peu découragés. Ils ont eu des difficultés et il y avait pas mal de raisons, comme je vous ai déjà cité, qui pouvaient faire qu'ils disaient « c'est pas le moment, il y a d'autres soucis ». Il y avait les ennemis, il y avait peut-être le manque de moyens. Agé va revenir là-dessus dans le chapitre 2. Il y a simplement la fatigue et la difficulté. On va voir plus loin qu'ils avaient il y avait de la sécheresse et des problèmes de récolte. Peut-être même qu'ils se rappelaient des temps plus faciles à Babylone. On se souvient, quand on a lu l'Ancien Testament avant ça, le peuple d'Israël qui était dans le désert ou même qui arrivait dans la terre promise et qui regrettait encore l'Égypte et qui se disait « Ah, mais on était bien, c'était mieux que... Avant, c'était mieux. » Et faire des travaux de construction, c'est difficile. Qui c'est qui a eu à rénover ou à retaper quelque chose récemment? Moi, j'ai passé cette semaine, une partie de cette semaine, à installer un nouveau chauffe-eau ici à l'église avec Louis. Et je disais à quelqu'un ce matin que ça m'a servi d'illustration pour le message, ça servirait parfaitement. Parce que construire et reconstruire et rénover, c'est toujours, on part bien, on se dit c'est bon, j'ai acheté le matériel, j'ai le projet, ça va me prendre, on a notre planning, on a notre calendrier, et puis, puis viennent les problèmes, viennent les interruptions, viennent les... Ce morceau-là, il rentre pas vraiment. Donc, est-ce que j'achète quelque chose d'autre? Est-ce que je le rabote moi-même? Est-ce que je casse un truc parce que je savais pas comment ça marchait? Et ça, etc., etc. Et au final, l'installation du chauffe-eau qu'on avait commencé mardi, en se disant ça va nous prendre quelques heures, je l'ai fini hier à 16h. pour différentes raisons, j'ai pas travaillé toute la semaine dessus, mais c'est difficile, c'est des choses qui sont compliquées, et quand on voit ces choses face auxquelles il faisait face, on peut comprendre. Moi, j'avais pas des ennemis forcément, ou des gens qui venait m'attaquer de nuit pour me voler le chauffe-eau, etc. Mais c'était difficile. Mais le vrai problème de ce peuple et de ces Israélites qui sont revenus, c'est un problème de priorité. Et l'Éternel va les épingler juste au verset 4. Mais il s'était fait il ne niait pas le fait qu'il fallait reconstruire le temple et que c'était important. Mais il s'était trouvé d'une certaine manière des excuses, une excuse un peu spirituelle pour dire ouais, non, c'est pas le moment. Et peut-être même qu'il se disait oui, vu que Dieu n'a pas pourvu tout ce qu'il faut, c'est que Dieu ne veut pas qu'on le fasse maintenant. Et peut-être même d'une certaine manière, ils en faisaient quelque chose de spirituel pour justifier leur manque d'obéissance. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils avaient d'autres intérêts, d'autres priorités qu'ils mettaient avant le fait de reconstruire le temple. C'est ce qui nous est clairement indiqué au verset 3. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Et donc, on a l'impression que peut-être Agée avait déjà parlé au peuple et les avait déjà interpellés sur ce problème. Mais on voit qu'en fait, ils disent oui, c'est difficile de construire et on a du mal et on n'a pas de moyens et c'est long. Mais ils n'avaient pas de soucis pour construire leur maison. Ils n'avaient pas de problème pour se faire des maisons extravagantes et pour mettre des moyens et pour trouver le temps et l'argent et la motivation nécessaire pour construire leur maison. Et en quelque sorte, ils mettaient leur propre confort et leurs propres intérêts avant ceux de Dieu. On peut penser aux excuses peut-être, aux choses auxquelles ils pensaient quand ils trouver des raisons de ne pas le faire. Ils pouvaient dire bon ben le travail sur le temple n'avance pas vite, il faut qu'on attende là qu'il y ait le tailleur de pierre moi je vais commencer à travailler sur ma maison puis on fera un peu plus tard, ou peut-être qu'il y avait des gens qui disaient non mais Dieu il veut que je m'occupe de ma famille et de ma maison d'abord, il faut que je sois c'est le plus important, ça on verra après. Peut-être qu'il disait, moi, ma maison, elle est pas si belle que ça. Regardez celle des voisins, elle est bien mieux. Hein. Moi, j'ai juste mis un peu quelques lambris. Eux, elle est complètement lambrissée. Regardez, eux, ils ont quatre chariots. Moi, j'en ai un petit juste. Ou peut-être qu'il se disait, le temple, il est détruit depuis 50 ans. Si on attend encore quelques années, c'est pas si grave. Peut-être qu'il se disait, il y a les fondations, il y a l'autel, on peut faire les sacrifices, ça suffit. On arrive à... C'est suffisant, c'est fonctionnel. Ou peut-être même qu'il disait, et quelqu'un d'autre devrait travailler sur le temple. C'est vraiment important qu'on reconstruise le temple. Moi, je n'ai pas le temps, mais il faudrait que quelqu'un, que vous vous y mettiez. Et ce sont des excuses et des choses ce message qui était adressé directement au peuple d'Israël à ce moment-là, c'est quelque chose qui, quand on entend ces choses, peut nous parler, nous l'Église, aujourd'hui, dans le sens de quelle est notre priorité dans notre vie par rapport au royaume de Dieu. Est-ce que nous mettons le royaume de Dieu comme une priorité dans nos vies? Dans Matthieu 6, 33, il est dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et donc quand on voit ces excuses, et quand on pense au royaume de Dieu, alors c'est pas quelque chose où on doit se limiter au bâtiment ici, à l'église, de manière physique, on n'est pas obligé d'avoir du marbre, etc. C'est pas ça l'objectif, mais c'est le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce que mon intérêt, c'est de me faire plaisir avec ce que j'ai moi, pour moi, ou est-ce que c'est ma volonté, c'est est-ce que je veux faire plaisir à Dieu? Est-ce que je veux rendre gloire à Dieu? Et Dieu les interpelle au verset 5 et il dit, voici ce que j'ai à vous dire. C'est l'Éternel, le maître de l'univers qui parle. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Et ça, il va le répéter plusieurs fois. Il va leur dire, prenez le temps de considérer, prenez le temps de réfléchir. Et pour nous, c'est quelque chose aussi que Dieu nous dit et qu'on voit dans le Nouveau Testament aussi, c'est réfléchissons à nos vies et à comment nous nous comportons et à comment nous, quels sont nos intérêts, quelles sont nos priorités. Dans le même passage dans Matthieu 6, avant qu'il parle de ce verset, qu'il dise ce qu'il a dit au verset 33, il parle du fait de dire « Où est votre trésor ?» Quel est votre trésor? C'est là où votre cœur va être. Et donc, il leur dit, réfléchissez attentivement à votre conduite. Et puis, il leur dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Dieu les punissait parce qu'ils ne le mettaient pas en premier. Ils subissaient des conséquences matérielles, ils cherchaient leurs biens matériels, mais Dieu les frustrait. Dieu les rendait insatisfaits. Et nos vies, pour nous en tant que chrétiens, si nous ne cherchons pas d'abord le royaume de Dieu, nous allons être insatisfaits. Nous n'allons pas trouver la satisfaction que nous disons ou voulons rechercher. Et c'est... Un des commentateurs que je disais disait qu'on pourrait prendre la fin de ce verset, le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Et dire c'est quelque chose qui décrit à merveille notre monde moderne où on peut travailler et se donner du mal toute la journée et notre salaire dès qu'on l'encaisse il disparaît aussitôt. Il tombe dans un sac percé. Alors parfois, on peut avoir de la bénédiction matérielle, même si on ne met pas Dieu en premier. Et parfois, on peut être, et c'est un danger, on peut se dire, ah c'est bon, je suis béni, tout va bien. Mais dans ces moments-là, il faut se dire, est-ce que je mets vraiment Dieu en priorité? Parce qu'il y a un danger qu'à un moment donné, Dieu soit obligé d'intervenir pour nous rappeler à l'ordre. On doit mettre sa volonté, on doit mettre ce que Dieu veut en premier. Et au verset 7, il continue, il dit « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. » Dieu les appelle à travailler de manière très concrète. Pour nous, en tant que chrétiens, Parfois, on dit que le travail le plus important, le travail spirituel le plus important, c'est la prière. C'est le fait qu'on prie Dieu et que c'est le plus important. Et c'est vrai, mais il ne faut jamais tomber dans une hypocrisie spirituelle qui est de dire « Non, mais moi, je prie. Il y a des moments où Dieu nous appelle à faire des choses concrètes, à servir peut-être à l'église, à aller voir quelqu'un, à parler à quelqu'un, à amener peut-être quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a des choses concrètes que Dieu nous demande de faire parfois et on doit faire attention de pas trouver des excuses égoïstes ou des excuses spirituelles. On doit y aller. Et ici, il leur dit « Montez sur la montagne ». C'est-à-dire aller en haut où il y a des arbres, couper les arbres, apporter le bois et construisez le temple. Il leur dit en quelque sorte, maintenant il est temps de me faire plaisir. Vous faites plaisir, d'accord, mais maintenant là, il faut me faire plaisir. Il leur parle sur leur motivation ici, j'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les montagnes, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Ils s'opposaient à eux. On voit la sécheresse, on voit l'agriculture qui marche mal, qui va pas bien, ils s'opposent à eux. Et c'est des échos de ce que Dieu avait déjà promis ou déjà prévenu dans le Deutéronome, en leur expliquant soit vous me mettez en premier, vous me faites plaisir et je vous bénirai, je bénirai vos récoltes, vos maisons, vos etc etc. Mais si vous me laissez tomber, si vous fichez de moi en quelque sorte et que vous ne cherchez pas à me faire plaisir, alors vous allez avoir du mal avec ces choses basiques. Et c'est intéressant parce que parfois peut-être si peut-être nous on subit quelque chose, peut-être même que eux dans leur esprit, peut-être que là ils avaient la sécheresse, les récoltes donnaient rien, ils étaient en panique, ils allaient voir le grand prêtre au temple et disaient oui, prie Dieu de nous aider, il y a l'ennemi qui nous attaque. Et en fait c'était Dieu qui permettait, qui était opposé contre eux pour les rappeler à l'ordre. Et est-ce que parfois pour nous aussi Dieu permet des choses parce que nous ne le mettons pas en premier, parce que nous ne voulons pas faire sa volonté, on est en train de chercher notre propre intérêt et quelque chose va mal et on dit « Oh, il y a Satan qui m'attaque ». Est-ce que peut-être c'est pas une piqûre de rappel de la part de Dieu qui vous dit « Hey, en fait, vous faites votre propre volonté, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez rien à faire de moi et donc je veux vous interpeller ». Vous avez de mauvaises priorités. Verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ils ont une belle réponse, ils entendent ce que Agé leur dit, ils entendent ce que l'Éternel leur dit par la bouche de Agé et ils obéissent. Ils craignent l'Éternel en reconnaissant qui il est vraiment et comment ils doivent se comporter. Et au verset 13, Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Et il continue, « L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Dieu les encourage et il leur dit, « Vous obéissez, vous répondez, je suis avec vous, je vais vous aider. » Et on voit que ça commence avec les dirigeants, qui écoute et que ça se répand ensuite sur tout le peuple. Ça, c'était le premier message. Et le deuxième message arrive au chapitre 2, à partir du verset 1. Il est dit le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Le temple avait été détruit au moment où ce récit se passe, en 520 avant Jésus-Christ, 66 ans avant. Et apparemment, il y avait encore des personnes qui se rappelaient, qui avaient vu le précédent temple avant d'être déportées à Babylone. Et dans Esdras, pas dans ce texte ici, au chapitre 3 d'Esdras, si vous voulez, on peut s'y tourner pour le lire. Esdras 3, qui se trouve après les livres des Chroniques. Le peuple est revenu à Babylone, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont refait les fondations du temple et ils ont construit l'autel. Et on voit ici la réaction. Donc c'est au Esdras 3, verset 12. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres, faisaient éclater leur joie par des cris. On ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Et on a une espèce de cacophonie entre les anciens qui pleuraient en disant « c'était mieux avant » et « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et les jeunes nouveaux qui ne l'avaient pas vu et qui étaient joyeux et qui étaient excités. Et sans doute que cette réaction-là a en partie ce qu'on a lu dans Esdras, c'était avant, ce qui arrive dans Agée, c'était sans doute une partie de ce qui les avait démotivés, ce côté « ah ouais, finalement, ouais. » Ils étaient contents, ils avaient de la motivation, et les anciens, ils disent « ouais, mais regarde ça, c'est horrible. » Puis il dit « ah oui, ouais, bon, je vais aller travailler sur ma maison. Hein. » Et on a l'impression ici que Agée, donc après le premier, il les a motivés, il a dit « vous devez reconstruire le temple ». Et il y avait peut-être cette même idée qui revenait, où ils se disaient encore « ouais, mais c'est encore, comment on va jamais arriver à faire ce qu'il y avait eu sous Salomon ? On n'a pas les moyens, on n'a rien. » Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression ici dans le texte que l'Éternel, d'une certaine manière, leur dit « oui, c'est rien ». Ça ne vous paraît pas comme rien du tout, là? Comparer le travail de Dieu à une époque par rapport à aujourd'hui ou à un autre moment dans l'histoire, c'est un exercice en général futile, qui n'a que très peu de valeur et qui, dans la plupart des cas, est carrément idiot. Même de se comparer à d'autres œuvres au même moment, peut-être dans une autre église, dans un autre pays, dans un autre lieu, peut-être même dans la vie de quelqu'un d'autre, on regarde quelqu'un d'autre et on se dit « ah oui, Dieu, Dieu fait quelque chose à travers lui, moi je fais quelque chose et il ne se passe rien, c'est tout petit, ça ne sert à rien. » Tout ça, c'est un très très mauvais réflexe qui est ridicule. Et on va le voir après, par rapport à ce temple, l'important dans le travail pour le royaume de Dieu, c'est la partie de ce que Dieu fait. Tout ce que nous pouvons faire, le temple de Salomon, aux yeux de Dieu, était un temple ridicule et insignifiant. Tout l'argent, tout l'or, tous les diamants du monde qu'on pourrait composer et mettre en place, pour Dieu, c'est rien du tout. C'est lui qui a tout créé, c'est à lui qu'appartient tout. Lui, de l'or ou de l'argent, ça, c'est une pierre comme une autre. Lui, ça lui est complètement égal, et nous, on place de l'importance dans ces choses. On peut regarder un bâtiment, un truc, voir une autre église et se dire « ah oui, là, il se passe vraiment quelque chose ». Mais la réalité, c'est est-ce que Dieu est présent ? Est-ce qu'il est là ? Et si lui, il est là, c'est sa gloire qui a une importance. le temple de Salomon sur la fin du royaume du sud, la gloire de l'Éternel n'était plus présente. La gloire, Dieu s'était révélé, sa gloire s'était révélée sur le temple au début quand il avait été construit, mais avec la désobéissance perpétuelle du peuple, il avait dit je pars, c'est plus chez moi en quelque sorte. Et le temple, bien qu'il apparaissait moins beau, s'il travaillait dessus et que Dieu, il le dit hein, au chapitre 1, il dit au chapitre 1, je suis avec vous, je suis là. Et c'est à ce moment-là, c'est là que c'est beau. Et il leur dit au verset 4, maintenant fortifie-toi Zorobabel, déclare l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre, fortifie-toi peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. C'est la présence de Dieu qui est importante, qui est glorieuse. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le siècle. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il y a une annonce du jugement à venir du monde, mais cette annonce de la présence de sa gloire dans ce temple. Il va continuer au verset 8, il dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel le maître de l'univers. » Et au verset 9, « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel le maître de l'univers. » De quoi il parle ? On pourrait penser qu'il s'agit de ce que je vous ai montré, à savoir que Hérode reconstruit le temple de manière assez incroyable. Mais la réalité, c'est que qui va être présent dans ce temple qu'ils sont en train de reconstruire ? C'est Jésus lui-même qui va donner la vraie paix avec Dieu. C'est beau la grâce de Dieu. Il leur dit, vous ne devez pas vous soucier des ressources pour la construction. Au verset 8, il leur dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, ça c'est pas un problème. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Quelle belle promesse. Le troisième message. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressé au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, propose au prêtre cette question sur la loi. La loi ne couvrait pas toutes les situations de la vie et donc les prêtres étaient habitués à ce qu'on vienne leur demander dans tel et tel cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et eux, ils disaient oui, alors d'après la loi, donc il faut faire ci ou ça. Et il leur dit, si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes ? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures ? Les prêtres répondirent, elles seront impures. La sainteté, la pureté, ça n'est pas quelque chose de contagieux. Mais l'impureté, oui. Si quelqu'un est en bonne santé et que quelqu'un est malade, si on les met ensemble, la personne qui est malade ne devient pas en bonne santé. Le malade transmet sa maladie à la personne en bonne santé. Si on prend un verre d'eau propre et un verre d'eau sale et qu'on les mélange ensemble, on n'a pas un verre d'eau propre. On a un verre d'eau sale. Et ici, il dit, si quelque chose est impur, il ne va pas arriver à faire quelque chose de pur. Et ici, Dieu les interpelle en leur disant, vous voulez construire un temple, mais vos cœurs et vos motivations et vos vies ne sont pas au bon endroit, vous êtes impurs. Et si vous me construisez un temple, même si c'est ma maison, vous êtes en train de contaminer le truc que vous êtes en train de construire et ça ne me fait pas plaisir. Ils pensaient peut-être que le simple fait d'être en terre promise suffirait à être Mais Dieu leur dit, vous devez m'obéir, vous devez vous purifier. Et pour nous, si nos priorités ne sont pas correctes, si nos vies vis-à-vis de Dieu ne sont pas ce qu'elles doivent être, alors nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu. Verset 15. « Maintenant réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. » Les difficultés ne nous poussent pas toujours vers la repentance et vers l'obéissance à Dieu, malheureusement. Il continue, réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès aujourd'hui, je bénirai. Là, en quelque sorte, ils voient leur cœur et qu'ils veulent obéir et qu'ils veulent répondre à cet appel de Dieu. Et il leur dit qu'il va leur bénir et leur promet la bénédiction. Mais il leur dit de persévérer parce qu'ils ont été punis, ils n'avaient pas eu les récoltes. Et ça prend du temps de récolter les choses, de récolter les bénédictions. Il leur dit en quelque sorte, vous aviez plus rien dans vos greniers, mais je vais vous bénir, mais le temps que les plantes poussent et que ça revienne, persévérez. Et parfois, pour nous aussi, on a besoin de persévérer dans la volonté de Dieu, même si on ne voit pas des fruits ou des bénédictions immédiates. Notre culture aujourd'hui est faite de gratification instantanée. On veut payer avec la carte bancaire et tac, on le reçoit le jour même avec le livreur. Mais les bénédictions de Dieu, parfois, prennent un peu plus de temps à arriver et nous demandent plus de persévérance que ça. Et puis, le dernier message, Agé 2, versets 20 à 23. « La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Et ici, c'est encore une exhortation, un encouragement. Comme je vous disais, il pouvait avoir l'impression peut-être d'être complètement insignifiant, mais Dieu, d'une certaine manière, lui dit, c'est moi qui ai la force, qui ai la puissance sur terre, qui dirige. On a une annonce un peu aussi là du jugement de Dieu sur le monde qui va venir. Mais il leur dit, si vous êtes de mon côté, vous êtes du bon côté, vous êtes du côté du vainqueur. Et puis il a cette promesse, le verset 23, qui là aussi est quelque chose qui revient à nous parler de Jésus, parce que Zorobabel, dont je vous parlais, qui est le gouverneur à ce moment-là, qui était un descendant et sans doute un des derniers descendants valables dans la lignée de David, donc le roi, un roi au niveau légal, au niveau au sens de la descendance du sang, du trône de David. Et ce Zorobabel se retrouve dans les deux lignées de Jésus, dans la lignée légale par son père, par Joseph, qui nous est décrite dans Luc 3, mais aussi dans la lignée du sang par Marie, et ça nous est décrit dans Matthieu 1. Et donc ce Zorobabel, lui, a droit à une place incroyable, parce que c'est de sa descendance que va venir Jésus, va venir le Messie. Et ici, il dit, je ferai de toi comme un sceau, comme un signe, comme quelque chose de qui rend gloire à l'Éternel. Et c'est une promesse concernant un avenir radieux. Pour conclure, pour moi, vraiment, ce livre d'Agé, quand je l'ai lu, la première fois, je lisais sur mon téléphone portable, et je pensais avoir sélectionné Agé. Et en fait, j'étais toujours, il y avait toujours le texte de Sophonie qu'on a regardé la semaine dernière. Et donc, je me disais, tiens, ça ressemble vraiment à Sophonie, c'est bizarre. Non, en lisant ce texte, ça me faisait vraiment penser à ce que je vous ai lu tout à l'heure, à ce que disait Matthieu, Jésus dans Matthieu 6. Il y a les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et, les rouilles, et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis un peu plus loin, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous seront donnés en plus. Les choix que nous faisons ont une importance. Dieu, de manière bizarre, a choisi d'utiliser les hommes en grande partie pour faire son travail sur terre et Il nous demande de faire notre partie du travail pour le royaume de son royaume. Il veut des hommes qui lui obéissent et ça devrait nous pousser à l'humilité et à l'action. Et peut-être trois points pour finir avec ces messages d'Agé, c'est travailler pour mon royaume en premier, rechercher mon royaume et ma justice. Changez l'ordre de vos priorités. Posez-vous la question, quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est le royaume de Dieu ou pas? Le deuxième point, c'est soyez patient et persévérant. Je suis avec vous. Ça peut prendre du temps, ça peut ne pas être ce qu'on pense, mais je suis avec vous. Le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément, qu'on peut mesurer, et parfois on peut se décourager parce qu'on n'a pas ce fruit visible, mais Dieu est avec nous. C'est sa présence, c'est sa gloire qui est importante. Et puis, soyez purs. Cherchez à m'obéir. Cherchez à changer vos vies, à faire ce que je veux. Parce que c'est à ce moment-là que vous me faites vraiment plaisir. Prions. Jésus, merci pour ce message. Jésus, je ne fais pas toujours de ton royaume ma première priorité, Seigneur. Et je veux que tu m'aides et que tu nous aides, Seigneur, à peser nos priorités, à peser le pour et le contre, Seigneur, dans nos vies, pour savoir si nous recherchons d'abord ton royaume et ta justice. Seigneur, aide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ces choses, pour pouvoir te faire plaisir, Seigneur, pour pouvoir t'obéir. Nous avons besoin de ton aide dans ces choses, Seigneur. Mais Jésus, merci pour ta grâce aussi, parce que tu bénis, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es lent à la colère. Tu es tellement patient avec nous quand nous ne prenons pas le temps, Seigneur. Quand nous partons travailler sur nos maisons, Seigneur, tu permets des choses, tu envoies des personnes, tu nous parles par ta parole, pour nous dire « Revenez, construisez ma maison. » Seigneur, aide-nous à entendre quand tu nous parles et à y répondre avec zèle, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble ce dimanche. Merci pour la famille que nous sommes ici et de par le monde en toi. En ton nom, nous prions. Amen.